Mais on parlait de musique, justement, et Nico est avec nous autres. Il n'a pas amené de gâteau de fête avec des chandelles, mais c'est le 30e anniversaire de l'album Nevermind de Nirvana aujourd'hui.
Exact. Alors, on fait ça là?
Ben,
parfait.
On peut le faire demain, mais ça va être plus tranquille.
Ça sera plus bon, ça sera plus bon. Effectivement, un succès surprise qui était lancé il y a 30 ans aujourd'hui. Puis, dans la musique, il y a parfois des avant-après. Il y a des avant-après, par exemple, Elvis. Il y a avant-après les Beatles.
Oui.
Il y a certainement avant-après les Sex Pistols.
Et Michael Jackson.
Michael Jackson, absolument. Ouh. Et il y a un avant-après cet album-là particulièrement de Nirvana qui a amené le mouvement musical qu'on appelle grunge dans le public de masse qui en a fait un succès. S'il n'y a pas cet album-là, je pense pas que ça arrive. Et ça a transformé la musique planétaire sur plusieurs aspects, mais surtout sur le comme je te dis, l'arrivée de ce mouvement-là, qui était...
C'est de la musique underground?
C'est pas de la c'était underground. Ça se voulait underground. Ça se voulait de la musique de monde pas organisé, des gens un peu oubliés par la société.
La génération X, on va le dire. Là,
la génération X, effectivement.
Il y a clairement du malheur là-dedans aussi. Là.
Mais c'est devenu justement l'hymne d'une génération, d'une jeunesse qui se reconnaissait plus nécessairement dans le Motley Crue, puis dans le Bon Jovi, puis dans le Mariah Carey, puis tu sais, c'est venu chercher des gens qui étaient sous-représentés dans l'univers musical de cette époque-là.
Parce que là, l'époque, là, pour situer les gens, si ça fait 30 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'on est en 1991.
Exact.
Du rock, et il y avait du heavy metal.
Il y avait du heavy metal, mettons. Puis là, il a parlé de Mariah Carey, où il y a le pop, il y a le rock, mais comme entre les deux, il y avait un trou. C'est ce que
ça.
Je comprends.
Puis le rock, c'était justement, comme je vous dis, c'était Bon Jovi, Motley Crue, puis c'était Sprinette.
Ben, mais là, on est en 90, Steph, quand il te parle.
Bon Jovi,
c'est pas aujourd'hui.
Van Halen.
Était là. Mais c'est justement, c'est ça. Quand je te dis avant-après, ce que le grunge a fait, c'est que c'est venu mettre une barre temporelle pour dire ce qui était avant, c'est quétaine. Vous pensiez que c'était du rock? C'est plus ça, le rock. Puis j'attaque pas les goûts de personne, là. Je vous parle juste de perception de mouvements socio-culturels dans le monde du rock. On est parti de cheveux spray net, maquillage de filles. Je parle de Motley Crue, entre autres, et Rat et tout ça. Puis on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus cru, de beaucoup plus...
Pas de clavier.
Cheveux gras, détresse.
Oui, les
ils changent pas leur boxeur.
Drogue dure.
Les chemises carottées, drogue dure. Il y en avait dans... Mais c'était plus glamour, un peu comme dans l'époque de Motley Crue et tout ça. Mais avant que ça arrive, quand Nirvana, qui avait un album sur une étiquette indépendante, Sub Pop, qui est l'étiquette qui est responsable de tout le mouvement grunge à peu près, quand Nirvana décide d'enregistrer un deuxième album... Ils n'ont pas une scène. D'ailleurs, ils vont faire des shows pour avoir l'argent, pour avoir l'essence pour se rendre au studio, pour enregistrer.
Ils peuvent pas mettre de gaz.
Ils sont pas capables de mettre de gaz. Ils vivent tous ensemble. Puis ils sont avec un autre batteur à ce moment-là. Chad Channing, c'est pas encore Dave Grohl qui est là. Puis ils vont commencer les enregistrements du...
Dave Grohl, c'est
de l'album.
Moi, je connais rien dedans, là. Mais c'était qui le génie derrière Nirvana? C'est un génie d'équipe?
C'est Kurt Cobain. Non, c'est pas un génie d'équipe. D'ailleurs, sur tout l'album... Nevermind, il y a une chanson qui est créditée à tout le groupe, puis tout le reste, c'est juste Kurt Cobain.
Il a écrit les paroles
tout,
et la musique.
C'est lui le génie là-dedans, puis je veux rien enlever à Dave Grohl. Vous allez
mais Dave Grohl, es-tu là, lui, à ce moment-là, de Nevermind?
Pas au début des enregistrements, non. Ils sont avec Chad Channing, puis justement, ça fait pas. Kurt le trouve pas à la hauteur du reste
fait que c'est pas une chicane. C'est vraiment ses compétences qui sont
ça a dû mener à une chicane à un moment donné. Mais les gars commencent les enregistrements. Ils font 7-8 pièces avec Butch Vig, qui est un producteur qui commence.
Butch Goring?
Butch Vig.
Pas Butch Goring?
Non.
Tu sais pas c'est qui Butch Goring?
Non, pas en tout. Butch Vig, il a fondé quelques années plus tard le groupe Garbage. Mais à ce moment-là, il est producteur.
Vidange. Lui a décidé, on va appeler ça Vidange.
Vidange, exactement. Ben, ça fait punk. Ça fait punk. Ouais. Donc, ils commencent l'enregistrement. Ils font 6-7 tunes. Puis les gars partent pour faire quelques spectacles et tout ça. Ils vont revenir quelques mois plus tard. Et avec justement un nouveau batteur, Dave Grohl. Là, Kurt dit à Butch Vig, tu vas voir, lui, il est à la hauteur de ce qu'on veut. Puis he's the man.
Mais lui tout, il est bon. C'est un génie, lui aussi.
J'irais pas jusqu'à génie. C'est un bon batteur. Puis il a ajouté la lourdeur à Nirvana qui lui manquait probablement. Okay.
Il fait quoi déjà aujourd'hui, Dave Grohl?
Foo Fighters.
Ah, les Foo Fighters, c'est exact. Bon, ce que vous en
dites? Oui, c'est bon, absolument.
C'est du grunge, ça?
Non. C'est dans le rock vraiment mainstream. Non, c'est correct. C'est
un country guy. Ouais. Ouais, ouais,
je suis un country guy, moi.
C'est ça, on essaye quelque chose à matin, encore une fois. Là. Mais entre-temps, entre la période où ils sont partis du studio la première fois puis quand ils reviennent quelques semaines plus tard, il y a une cassette qui a circulé des sessions d'enregistrement puis des pièces qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Et là, il y a une guerre de labels. Il y a une guerre de grosses étiquettes de disques pour signer Nirvana avant qu'ils complètent l'album Nevermind, parce qu'on voit le potentiel de ce que ça pourrait être. Finalement, il signe avec l'étiquette Geffen, qui est une assez grosse étiquette. Puis là, ils vont commencer à avoir un peu plus de budget pour l'enregistrement et tout ça. Et ils disent, on a eu notre première carte de crédit à ce moment-là. Fait qu'on pouvait au moins rester dans des hôtels. Et fait que la deuxième partie de l'enregistrement de l'album s'est fait dans des conditions un peu plus luxueuses. Puis il y a une belle image dans cet enregistrement parce que l'hôtel où ils restent en face du studio, il y a aussi un groupe.
On est où, là?
On est
à Seattle ou?
Non, on est au Michigan.
OK.
Pour l'enregistrement, mais c'est un groupe de Seattle.
OK.
Effectivement.
Mais ils sont au Michigan pour enregistrer. Et là, ils vivent dans l'hôtel en avant du studio.
Quand ils reviennent, c'est à Sound City. Vous avez peut-être vu le documentaire, justement, de Dave Grohl sur le studio Sound City où il y a beaucoup, beaucoup d'albums. Là, on est rendu à Californie, la deuxième portion de l'enregistrement. L'hôtel est en face du studio et il reste là aussi. Un groupe représentatif du mouvement d'avant, des feux spray net des années 80, Europe, qui vient d'avoir un super gros succès avec The Final Countdown.
Une toune.
Puis ils n'ont jamais eu rien d'autre après. Ils sont là pour enregistrer le deuxième album. Puis c'est des beaux blonds quasiment à rien, là, tu sais, dans leur apparence. Puis eux autres, les trois gars de Nirvana, sont lettres en chemise carottée quand ils vont à la piscine de l'hôtel. Puis c'est contrasté avec l'autre. Fait que t'as vraiment comme un passage du flambeau métaphorique, si tu veux, avec le fait que les deux groupes restent à l'hôtel. Ce qui va changer la donne, c'est une pièce. Et cette pièce-là, ils ne l'avaient pas lors des premières sessions d'enregistrement. Ils sont arrivés avec lors de la deuxième. C'est Smells Like Teen Spirit, qui est la pièce d'ouverture sur l'album et qui est devenue un succès planétaire à l'automne 1991, entre autres à cause du clip qui arrête pas de jouer sur MTV.
Puis le début de la toune.
Et le début qui est un beat de drum disco que Dave Grohl a pris sur une toune du Gap Band, qui est un groupe vraiment disco des années 70. C'est là qu'il a copié le rythme de...
On peut-tu l'entendre?
On peut absolument entendre le début de la toune.
C'est pas du drum, lui?
T'as raison, Stéphane, c'est pas du drum.
Bravo, un point. Manque des cheveux, là, Stéphane.
Et ça, ce sera leur plus grand...
Ça va être la porte d'entrée au succès planétaire, parce que ça... jouer vraiment tout l'automne 1991, mais même un petit peu plus. Et ça va propulser l'album...
Mais pas ta musique de poêle!
Et tu nous as parlé de cet album-là récemment, parce que c'est cet album-là qu'un petit gars tenu sur la pochette.
Exact.
Et que le gars poursuit.
Le gars poursuit, là. Exact. Smells Like Teen Spirit, ça vient d'où le titre? Teen Spirit, c'était un déodorant pour les jeunes. Et il y avait quelqu'un qui avait écrit dans la chambre de Kurt Cobain, « Kurt smells like Teen Spirit », puis c'est devenu le titre de la pièce, tout simplement. Personne prévoyait... On pensait que ça serait marquant, mais personne prévoyait un aussi gros succès. La compagnie de disques visait entre 50 000 et 500 000 copies totales. Ils ont dit, si on sera à 500 000, ça va être absolument fabuleux. Ça va valoir l'investissement. On a vendu 30 millions au fil des ans. 30 millions d'exemplaires. Ils ont délogé Michael Jackson au sommet du palmarès, pour vous donner une idée. Ça a tué, comme je vous disais, le hair metal. Ça a apporté le rock alternatif et le grunge vers le succès de masse, parce que Ten de Pearl Jam n'avait pas encore réussi à avoir un succès commercial. Il était sorti quelques semaines avant.
Un autre groupe de Seattle.
Il n'y avait pas eu Bad Motorfinger de Soundgarden et il n'y avait pas eu Dirt d'Alice in Chains, qui sont les quatre gros groupes du mouvement grunge de Seattle. Ça a bien continué. On a eu 3 albums studio au total, plusieurs albums live jusqu'au 5 avril 1994, alors que Kurt Cobain s'est enlevé la vie. Il s'est enlevé la vie le 5, mais on l'a retrouvé le 8.
C'est pas Courtney Love qui l'a tué.
Ça a été ça.
J'ai écouté ça, par exemple, la mort de Kurt Cobain.
Ouais.
J'ai écouté le documentaire sur... Tu sais, parce qu'on a mis en doute le fait que ce soit enlevé
longtemps,
la vie.
Longtemps, ouais.
Il y en a encore qui en veulent énormément à Courtney Love. Là.
On dit qu'elle a contribué d'une façon, soit par sa façon d'être ou peu importe. Mais il y en a qui en veulent.
La consommation. Mais pourquoi là, Courtney Love? Moi, dans le documentaire que j'ai écouté, c'était plutôt, on parlait plus de sa consommation extrême. D'ailleurs, la consommation de la journée où ça s'est enlevé la vie, c'était quand même, il avait 27 ans seulement.
Oui, il est dans le fameux club de 27.
Ouais.
Comme Janis Joplin, Jimi Hendrix et...
Je me souviens où j'étais, moi, parce que ça a choqué.
C'est une onde de choc incroyable à travers le monde.
Moi, je travaillais à l'hôtel, classique.
Notre hôtel.
Il y a un gars, l'autre bord, qui habitait l'autre bord, puis il avait ouvert sa vitre de chambre. C'était une chambre.
On était en après-midi?
Oui, c'était une chambre. Puis lui, il écoutait rien que ça, du Nirvana. Puis il a décidé que tout le monde l'écouterait avec lui.
Cette journée-là?
Oui.
Là, tu te demandais pourquoi?
Ouais, ben non, je me demandais pas pourquoi.
Okay.
Et tu voyais que lui, ça l'avait troublé.
Quand on a appris
ça. Il était sous le choc de ça.
Il était chez son père, ça se peut-tu, en haut du garage chez son père? Il y avait un appartement en haut d'un garage.
Ouais, c'est ça, exact.
J'ai vu l'endroit où
il était en haut d'un garage, effectivement, depuis quelques jours tout seul. Il consommait.
Mais Courtney Love, le monde, il reproche quoi là-dedans? Là? C'était sa blonde, ça, un moment donné?
Ils étaient ensemble, oui. Il avait même eu un enfant.
Oui, mais l'avais-tu laissé? Ben, ou?
Non, mais c'était une relation orageuse. Elle-même a des problèmes de consommation et tout ça. Fait que c'était pas quelqu'un de nourrissant, si tu veux, pour une personnalité comme Kurt Cobain, qui était déjà... personnalité un peu limite avant même le
consommation,
succès.
Personnalité, popularité rapide et très intense.
Et contrairement à ce que certains pensent, Kurt Cobain espérait que l'album Nevermind soit un succès. Il voulait pas que ça demeure underground, mais je pense qu'il était pas prêt mentalement à cette quantité de succès-là ou cette ampleur de succès-là.
Est-ce qu'il est riche quand il meurt? On comprend que l'album s'est vendu beaucoup, mais est-ce qu'il est extrêmement riche? J'ai l'impression que non.
Ah, moi, je penserais que oui. Mais 75 millions d'albums au total.
C'est
là,
juste
les
ton
trois
look,
albums.
Stéphane,
là.
Okay.
Je pense que c'est look. Juste, ouais, c'est ça. C'est sa façon d'être, son look. Je peux pas dire sa richesse, mais d'après moi, il était pas à plaindre.
Okay.
Il avait pas de misère à se payer sa drogue quand il est mort.
Okay. Est-ce que Dave Grohl, lui, est dans le même pattern ou il semble
non.
beaucoup plus équilibré? Il a l'air d'un bon gars, lui.
Oui, puis sa personnalité était déjà comme ça quand il a commencé à faire partie du groupe Nirvana, parce qu'on dit que c'était un bout en train, c'était un gars qui aimait la vie. Il compensait justement un petit peu pour Kurt Cobain dans le
pour groupe. La noirceur qu'ils ont
avaient. Pour la noirceur, effectivement. Puis il est pas resté inactif très, très longtemps. Vois-tu, Kurt, c'est arrivé en avril 94. Puis déjà, septembre, octobre 94, il avait commencé à faire des enregistrements pour ce qui deviendrait plus tard le premier album de Foo Fighters. Fait qu'il y a eu sa période sombre, mais tu vois, ça a vraiment pas duré longtemps. Puis il y a, d'après moi, une bonne partie du succès de Nirvana qui a recopié avec Foo Fighters, même si on s'entend que c'est pas à la même hauteur, c'est pas le même genre de musique, mais il a bien réussi à virer la barque de bord.
Ça, c'est le show qui a duré juste 4 tunes
et
plein.
C'est le show mémorable de 4 pièces sur les plaines, effectivement. Au moins, on a eu la chance quelques années plus tard de
il est revenu par après?
Oui, ils sont
parce
revenus.
Parce que l'année où il a mouillé terrible, puis il a joué juste 4 tunes, moi, la même journée que ça, j'étais à Boston. Et je me souviens où j'étais. En pleine journée, j'étais dans le bar qui est dans le mur de Fenway Park à Boston.
Ouais, ouais.
Il y avait pas de baseball parce que Foo Fighters tournait avec deux kits de stage. Et pendant, mais ici à Québec, c'était pas leur stage à eux, là, parce que c'était le festival d'été, mais il y avait deux kits de stage parce que la complexité d'installer le stage de Foo Fighters était tellement grande qu'il n'y avait pas le choix d'avoir deux kits de tournée. Et il est en train d'installer le stage de Foo Fighters le long du Green Monster à Boston, et parce que deux jours après,
il s'en venait.
Il faisait deux soirs de suite à Fenway Park. Ça doit être malade à Fenway Park, jouer vers le monde. Tu sais, t'es dans, comme dans le chanson, puis tu joues vers le monde. Ça doit être malade. Oui. C'est quand c'est plein, puis c'est...
Ils font régulièrement, d'ailleurs, Foo Fighters à Fenway.
Oui, oui. Ouais. Les Dropkick Murphys vont à Fenway quasiment toutes les années. Ça donne des shows assez spectaculaires.
Ils remplissent-tu Fenway Park,
pas loin. Ils sont populaires en bâtisse à Boston.
Ouais, hein.
Les Celtics.
C'est de la musique celtique, c'est ça? Oui. Ça, c'est des buveurs de bière rousse, là, c'est ça?
Les Dropkick.
Puis noir. On a un collègue de même, hein?
Vart.
Un farfadet?
On a un farfadet ici. Le gars qui... et c'est de sa faute si, quand je fais des messages publicitaires qu'on appelle des lives en direct, c'est lui qui écrit les textes de ces messages-là. Fait que quand il y a des écartades, c'est de sa faute.
C'est de sa faute.
Bon. Il s'appelle François Matt. Et il est musicien dans un groupe celtique.
Oui. Okay.
Et je l'ai...
Tu savais ça, Nico?
Oui, François Matt, oui. Il est juste de la flûte.
Et ouais,
t'oublies pas ça quand
il réussit, il chante, ouais, puis il joue toutes sortes de flûtes, hein, okay. Toutes les longueurs. Et je l'ai vu en spectacle à Saint-Augustin, il est demeuré.
Longueur.
Hein?
Ah, rien, non, non.
Je l'ai vu à Cap-Rouge, à Marina, en bas, là. Okay. C'est un pack. Il était engagé, François, avec un de ses musiciens de son band celtique, et ils se produisent comme ça dans la ville. Là, c'est vers la fin de son contrat, mais ils font des mini-spectacles comme ça, parce que la ville, évidemment, à cause de la pandémie, ne veut pas d'attroupement. Fait que, il est avec un guitare ou buzz, ou je mets pas ça, un enfant avec des cordes. Puis là, lui, il joue de toutes sortes de longueurs de flûte. Même que dans la même tune, il change de longueur de flûte. Fait que, puis des fois de côté, des fois en avant de lui, il joue ça de tous les sens.
Stéphane, je t'imagine avec des grands yeux, essayer de comprendre ce qui se passe devant toi.
Ouais, mais veux-tu te dire l'affaire bizarre? Voyez-vous dans votre tête l'endroit où je vous parle, là?
Oui.
À Cap-Rouge, il y a vraiment le.
La marina, là.
Il y a le resto, là, qui est à droite.
Ouais, le resto est complètement en bas.
Ouais.
Le resto est vraiment aux abords du fleuve en bas, qui s'appelle le quai 1635.
Ouais.
Juste en haut, t'as la cabane où ils vont louer pédalo. Il y a des pédalos en forme de cygne, il y a des canots, il y a toutes sortes d'affaires plates. Là. Fait que puis tu loues ça là avec la veste de sauvetage puis tout. Et France, là il y a un petit carré de béton et ils s'installent là eux autres, pour jouer leur musique celtique. Et les gens font la file. Donc eux autres, les deux musiciens sont là. Puis il y a quand même, il y a un trottoir, il y a un espace pour entrer dans la bâtisse pour aller faire la location des articles. Et il y a un grand talus de gazon pour s'asseoir si tu veux écouter de la musique. Mais là, il commence à jouer de la musique, puis il y a la file pour louer des canots. Tu sais, mais une file de quand même d'une vingtaine de personnes. Fait que la file est drette de 20 musiciens. Mais tu sais, les autres sont pas là pour écouter la musique. Tu sais, ils ont quasiment envie de se boucher les oreilles, tu sais. Fait que c'est un peu bizarre. Alors que nous autres, on est sur le gazon, puis on trippe, pis on a qu'envie de dire, tassez-vous donc, là.
On veut voir le spectacle.
Ouais, faites dans la file ailleurs, me semble, là. Je veux voir François Matt avec sa chemise rose. Fait que,
les auditeurs m'envoient merci, estimé de sa fortune,
à François Matt, ça?
Qui de, non, ça serait plus difficile à estimer. Quoi qu'il y ait plusieurs longueurs de flûte, en 2014, il valait 450 millions.
450 millions?
Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que ça. Quelle portion a cru depuis qu'il est décédé, puis quelle portion était déjà présente en 1994? Mais quand même.
Mais ça me donne raison. L'argent fait pas le bonheur.
Ah non! Si t'es pas heureux, il y a rien qui fait le bonheur. Des fois, ça te prend de quoi de chimique pour équilibrer ton cerveau. C'est pas pour rien.
De chimique?
Ben oui, des antidépresseurs.
Ah, OK, OK. Je me demandais aussi que t'allais.
Médicaments.
Hey, je veux rien me faire faire de chimique. Moi,
une bonne MDMA, hein? C'est ça que tu conseillais?
Ah ben oui, c'est ça.
Tu as pris de la drogue dure?
Ah, tu me fous, toi?
Ça va, Nico?
J'ai la chienne de ça, moi.
OK.
Ray, as-tu déjà pris de la drogue dure, toi?
Moi, ça, je suis malade.
Tu sais qu'on est demande? En onde, hein?
Paul Arcand, ouais, qui soit un invité le matin. Tu as déjà fait de la drogue dure, toi?
C'était-tu une graine? Là, on va mettre ça dans la catégorie. Ah, oui. C'était-tu une graine?
C'était-tu des différentes longueurs de graines?
Il a répondu spontanément et je le crois.
L'as-tu, le soldat?
Comme moi, là. toi, Ray, t'as jamais fumé de pot non plus?
Non.
Hey, on n'est pas beaucoup dans pas notre beaucoup. Catégorie. Toi, tu dois déjà fumer du pot.
J'ai fumé à 3-4 occasions.
T'as-tu déjà pris de la cocaïne, toi,
Nicolas? Non, 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 j'ai demandé. Drogue dure. Non.
Ok,
t'as déjà fait appel à des prostituées, Nico? Ah non, tu m'as donné. Je peux te dire, ça sert à tout.
Non plus. Mon Dieu, je me sens chez Belle.
Après moi, Pierre Jobin, s'il nous écoute, il capote un peu, hein, notre collègue.
Non, on ne l'a pas fait.
Hey. OK. Fait que c'est beau, ça ferme fait, ce segment-là.
On l'a tué, le capitaine, là.
Seigneur. Je pense que le bateau coule, là.
Hey. Vous, les auditeurs, avez-vous déjà pris de la drogue?
Oui, 25 de 2-6.
En écoutant Nevermind, en Nirvana, ouais. Par exemple.
Ben, pourtant, on en rit, mais c'est tellement triste en même temps. La cocaïne qui se consomme actuellement, là, c'est acheté à terre, là. Puis c'est plate parce que. Puis c'est un peu comme les élections. Dans le gris, il doit y avoir beaucoup en ville.
C'est cher pour jeter ça à terre, par exemple.
Hein?
C'est cher de la poudre pour jeter ça à terre.
Oui, mais c'est terrible. C'est, en région, c'est terrible.
C'est tellement terrible, un fléau, que quand tu as dit, mettons, à Nico, tu as déjà pris de la drogue dure, moi, j'ai posé la question, tu as-tu pris de la cocaïne? Parce que c'est plus de la drogue dure dans ma tête.
Ouais, je comprends.
Tu comprends-tu ce que
absolument,
je veux dire?
Absolument. Oui, mais elle a raison. Elle a raison.
Ouais,
mais ça en est.
Mais c'est sans dire long qu'on soit rendu là.
Ben.
Puis ça part de la légalisation. Moi, je suis pas mal convaincu que je comprends qu'on a, on aurait dû décriminaliser, mais de là à légaliser et à vendre du pot.
Je suis d'accord.
Moi, j'ai un de mes chums, là.
Tout à fait.
Qui s'est, là, il a pogné son gars de 15 ans à fumer du pot dans le gazebo en arrière. Fait que, il était fessé avec une pelle. Tu sais, de voir ça. Juste 15 ans pis tout. Puis il a reviré, c'est un gars très intelligent qui a reviré la situation de bord pis qui a essayé de voir comment il pourrait interagir là-dedans puis garder un certain contrôle. Il savait que dire si je t'en pogne, il savait que s'il pétait une coche, il guérirait rien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé lui-même à SQDC acheter du pot. Il en avait déjà fumé dans sa jeunesse et il a recommencé à prendre une pof de temps en temps avec son fils de 15 ans juste pour essayer de comprendre, de venir au même niveau et peut-être de l'amener à avoir quelque chose de plus raisonnable.
Ah, mais il faut être courageux, là, parce qu'il doit être en...
Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. J'étais pas d'accord avec ça, puis...
C'est une dualité, dans ta tête.
Mon chum, là, j'ai trouvé hot, parce que avant de prendre une décision sur savoir comment elle allait réagir, sais-tu ce qu'il a fait?
Non.
Il est venu chez nous. Il dit, t'es quoi sur ces sites? J'ai dit, oui, il y a un de mes gars en bas, là. Fait qu'il dit, il fallait donc venir. Fait que là, j'écris par la tête. Non, j'ai envoyé un texto. Je dis, viens donc.
Ah oui, texto.
Fait que là, il arrive en haut, puis il dit, mon fils prend de la drogue. Puis là, moi, je suis avec mon fils. Puis il dit, c'est pas ça l'important. Il dit, je veux savoir, toi, si je voulais te passer un message, ou ton père voudrait te passer un message important, de quelle manière tu penses qu'il pourrait le mieux s'y prendre?
Je l'aime donc bien, cet homme-là.
Fait que...
Je suis vraiment sans mots. J'adore cet homme-là. Quelle personne réfléchie.
Il a essayé de voir comment mon fils allait lui dire, ben, il dit, c'est sûr que si t'es capable d'y parler comme ses chums, il parle, ben, il dit, tu vas peut-être avoir une porte d'entrée plus facile, tout ça. Même moi, j'ai été surpris de la réponse à mon gars. Puis, il est parti avec ça. Puis, il a fait son cheminement.
Wow.
Je veux pense pas que ça aille, ça va parfaitement bien actuellement, mais c'était le chemin que lui a pris, plutôt que l'interdiction.
Il a ouvert un canal de communication au moins.
Ouais,
il l'a pas fermé.
C'est ça. Mais c'est tough. Hey. C'est tough en tabarnouche.
Mais regarde, vu que tu ouvres le sujet puis la porte, je suis un bon exemple de ce que ça aurait pu faire, la légalisation du cannabis, parce que j'ai pas consommé ça de ma vie. J'ai toujours, je te dis, moi, puis j'ai pas de grand mérite. Je suis un chieux. Fait que moi, j'aime ça, savoir que je suis en contrôle de moi-même. Ça a contribué aussi au fait que je bois pas beaucoup. Pour à peu près les mêmes raisons. J'haïs pas ça un verre de vin avec un steak, mais quand j'ai fini de manger, moi, l'alcool, ça me roule dans la bouche.
Pas moi.
T'avais pas besoin de répondre,
c'était ouais, on savait. Quand ils ont... ouvert les SQDC, quand il y en a ouvert une à 3-4 coins de rue de chez nous, je suis allé. J'ai acheté 3-4 fois, puis j'ai essayé 3-4 fois, en espérant trouver quelque chose qui me ferait relaxer, puis peut-être mieux dormir le soir. Puis j'ai pas trippé, c'est le cas de le dire. J'ai pas embarqué dans rien, fait que c'est peut-être mieux de même, mais il y a des gens qui vont le faire, peut-être comme moi, qui osaient pas avant, puis qu'eux autres vont se mettre à tripper correct, puis trouver ça le fun, puis peut-être faire des psychoses puis développer tous les problèmes qui viennent avec. Et tout ça, remarque, est-ce que l'alcool est un plus grand fléau ou un plus petit fléau que le cannabis? Je sais pas.
Moi, je pense que c'est moins déclencheur. Là. Ce sera jamais déterminé avec précision. Ouais. Moi, je pense que les drogues aussi soft qu'elle soit, peut être un déclencheur de toutes sortes de maladies psychologiques. Mais écoute, c'est une opinion très, très personnelle, mais on le voit, là, tu sais, on voit qu'on s'améliore pas au niveau des gens qui sont en perdition puis qui ont des troubles cognitifs, pas cognitifs, mais psychologiques et tout. Mmh. On est en augmentation. C'est pas tout relié à la drogue, mais...
Les seuls bienfaits de la drogue que j'ai entendu, je t'en ai déjà parlé, c'est des sportifs là, qui ont eu...
des douleurs.
Qui ont mal au corps, puis ça leur permet de mieux dormir, puis de mieux vivre leur après-carrière, mais ils ont un problème à la base, c'est-à-dire que leur corps leur fait mal, puis ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs.
Comme les gens avec des cancers.
Marijuana médicinale, oui.
Mais là, c'est ça, puis comme à Québec, là, je me souviens pas du nom du gars, mais on a parlé d'une entreprise, je pense que c'est à Stoneham, ils ont investi là, pour la construction d'une serre, en millions de dollars, là, puis eux, ils sont en train de développer un produit. C'est que j'ai une amie qui travaillait là, puis qui m'a parlé de ça un petit peu, mais ils tentent de développer des produits CBD, donc des produits qui n'ont pas les...
Comment tu restes pas accroché après ça? Là?
Ben, ça te gèle pas le cerveau, là. C'est que ça a un effet sur ton corps, c'est relaxant, apaisant, ça peut...
Ça a des effets.
Mais ça n'intervient pas au niveau psychique ou psychologique.
Ça bosse pas.
Parce que tu peux diviser... mettons qu'on prend, on va faire semblant que c'est une cellule, on peut diviser ton THC puis ton CBD.
C'est ça.
Puis il y a des propriétés aux deux, mais quand
tout est différent, tout effectivement. Est différent. Ton THC.
Toi, t'en cultives-tu encore chez vous? Là,
oui, mais dans le fond, ça fonctionne quand même bien.
À Beauport, on est obligé. C'est
mais
dans le
bas sur mon balcon maintenant.
Très bon, ça.
Mais
Nicole,
sais-tu, ça me touche ce sujet-là parce que je sais que pour certaines personnes dans mon entourage, ça a été extrêmement bénéfique là, par maladie et
oui,
autres.
Oui, c'est ça, exact.
Mais j'ai aussi toujours l'image, puis je l'ai recroisée, puis j'essaie de ne pas être émotive ce matin, mais je l'ai recroisée dernièrement en voiture sur la rue Saint-Jean avec. C'était pas moi qui conduisais. J'ai un ami du secondaire. C'était une des personnes les plus gentilles du monde. T'sais, super bien élevé. Vraiment, là, c'était un gars fin avec les filles.
Il est tombé dans la drogue?
Ben, il prenait du pot comme beaucoup de jeunes. T'sais, puis de façon récréative. Puis c'est un musicien hors pair. Puis tu sais, juste, ouais, mais à un moment donné, lui avait probablement quelque chose qui était porteur à l'intérieur de lui.
Ouais.
Mais je l'ai jamais su qu'il y avait maintenant des troubles de schizophrénie.
Oh, ouais.
Jusqu'au moment où je l'ai croisé dans la rue, puis il se parlait seul.
Mm-hmm.
Puis j'ai fait, voyons, Mathieu? Puis il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans son regard, il n'y avait rien. Puis l'autre jour, j'étais passager, puis la personne avec qui j'étais, elle a dit, hein, il est dommage bizarre, tu vois, il se parle tout seul. C'était Mathieu. Même, il est sur la rue Saint-Jean, souvent.
Donc, ça l'a scrappé, maintenant,
là. Ça l'a scrappé complètement.
Ça, mais je vous dis, moi, l'image la plus forte que j'ai vu des dommages de la drogue, elle est fraîche, là. C'est à Vancouver. À Vancouver, là, le secteur où on aide les gens, puis ils ont tous, je vous l'ai expliqué, ils ont tous la même posture, puis c'est pas du pot, fume pas de pot, là. 0-0-0, là. C'est de la drogue dure par injection. C'est épouvantable, les ravages physiques et psychologiques que ça fait. C'est assez terrible.
Sauf que, tu sais, si je veux... aller de l'autre bord, du côté de l'alcool. Les plus gros ravages que font l'alcool, on les a vus sur Dufresne il y a quelques semaines.
Ben, c'est juste différent, mais l'alcool, c'est une drogue aussi, là.
Ben oui, c'est ça. Puis quand tu te contrôles pas sur l'alcool, c'est aussi terrible.
Absolument.
Et dommageable que quand tu te contrôles pas sur la drogue.
D'ailleurs, on a reçu une alerte ce matin, une coroner qui, dans les dernières années, aurait déjà demandé à un échangeur dans le secteur de Beauport où il y a eu l'accident mortel, puis que ça avait tout simplement pas vu le jour, là. Je veux juste vous le mentionner vite. On a reçu cette alerte-là ce matin.
En parlant de problèmes psychologiques, je vais terminer cette capsule-là avec une de mes amies qui, elle, a mentionné ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Elle a découvert qu'elle avait un trouble de la personnalité. Je sais pas si ça s'est qualifié de bipolaire, honnêtement, je m'en souviens pas.
Parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, troubles.
Ouais, c'est ça. Puis elle l'a dit, elle vient de réaliser ça, qu'elle a un trouble de personnalité, personnalité limite ou je sais pas trop. Et on a un extrait sonore, d'ailleurs, de mon ami qui a mentionné avoir un trouble de personnalité.
Chaud tes tits.
Ouais, on en a parlé.
Chaud tes tits.
Elle le parle.
Tu chaud tout le temps tes tits. N'importe où que je vais, je chaud mes tits.
Yeah.
Mais j'ai trouvé ça correct.
Non, mais c'est même tout, j'ai trouvé ça correct. Fait que, elle s'appelle Hélène Boudreau. C'est elle qui chausse ses tits. Donc, voilà.
Elle est borderline.
What? Show tes tits.
C'est ça, le terme?
Je sais pas. C'est borderline. Ah boy. Oui. OK, vous êtes dans Dupont le matin. C'est complètement désorganisé. Très. Dans un instant...
Hey, parlant de désorganisé, excuse-moi, Kiwi est intelligent des fois, là, puis il faut le dire quand ça arrive. Il est en auto, il a un permis de conduire, tout. Puis en bas de la Côte-Saint-Sacrement, les feux de circulation ne fonctionnent pas.
Super.
Et okay. Il n'est pas en mesure d'avertir qui que ce soit, ça a l'air. Fait que nous, on le fait.
Là, c'est au plus fort la poche, l'instant. Là, c'est au plus fort la poche.
Ray, c'est ça. Ray. Fermez vos yeux, puis slack pas. Kiwi, slack pas. Le gars qui... Kiwi, j'ai travaillé avec au milieu des années 2000 et je vous au milieu de 2005
ouais, ouais.
4-5
c'est
là,
le milieu ça
et il porte aujourd'hui les mêmes t-shirts
le même linge
qu'à cette époque-là.
Ah, c'est pas un grand consommateur qu'est-ce que je
non,
te dis
non c'est assez limité dans l'habillement
met son argent ailleurs
le linge revient à la mode c'est complet.
On revient dans un instant.